Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir sur Calade pour cette nouvelle émission de Alors on change, le rendez-vous mensuel d'Alternatiba Villefranche, consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
Calade.
De l'agriculture, mais pas n'importe quelle agriculture. L'agriculture dite paysanne, en opposition à l'agriculture industrielle. L'agriculture, bien sûr, c'est un problème de société et pas seulement un problème d'agriculteurs. Et au moment où des choix cruciaux sont opérés pour notre avenir à tous, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette agriculture dite paysanne et nous interroger sur sa capacité à nourrir le monde tout en préservant le vivant. On vient de vivre une phase de colère des agriculteurs dans laquelle on a beaucoup entendu parler de fin du modèle agricole. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment qu'un seul modèle agricole comme on voudrait nous faire croire? En fait, il apparaît qu'il y en a bien plutôt deux, et deux que beaucoup de choses semblent opposer. D'un côté, le modèle agricole du productivisme illimité, de l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage, avec ses traités internationaux de libre-échange, ses fermes-usines à généraliser, sa malbouffe, qui est déjà là, et sa viande in vitro à venir, ses brevets sur le vivant et ses robots, et par conséquent, des profits en expansion pour les multinationales de l'amont, de l'aval et pour la grande distribution. Et puis à côté, le modèle alternatif de l'agriculture paysanne, prudent, solidaire, qui promeut peu ou pas d'endettement, peu ou pas d'intrants chimiques, qui s'appuie sur la vente directe, sur les circuits courts, et voudrait tout simplement accompagner d'un revenu décent la multiplication des petites fermes. Depuis des années, les gouvernants européens, nationaux, les industriels de la grande distribution, les dirigeants de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, nous servent un discours selon lequel ces deux agricultures pourraient cohabiter, d'un côté l'une performante, exportatrice, et de l'autre de niche, de terroir, produisant des biens de qualité pour ceux qui pourraient se les payer. Or, à travers cette crise, on voit bien qu'il y a d'un côté un modèle industrialiste qui se manifeste clairement comme ce qu'il n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire une impasse à tout point de vue, écologique, économique, humain, sanitaire, social, et de l'autre, le modèle de l'agriculture paysanne, qui ne peut malheureusement réussir à faire système, à incarner l'alternative générale au modèle productiviste, seul, sans une vaste et efficace politique de soutien, dont il bénéficie de moins en moins. Avec nous ce soir, pour dialoguer sur ce thème, deux invités. D'abord, Gérard Boinon, que je définirais comme un paysan engagé. Bonsoir Gérard, merci d'être là avec nous ce soir.
Bonsoir à vous tous.
Gérard, vous êtes l'auteur du livre « Le berger des mésanges bleus », un récit de vie dans lequel vous racontez notamment comment vous êtes passé d'exploitant agricole à paysan suite à une intoxication aux produits chimiques que vous utilisiez. Lors de ce virage, vous avez mis en place de nombreuses alternatives aux engrais chimiques, aux pesticides, aux fongicides, aux herbicides, aux antibiotiques, j'en passe et d'autres. Vous êtes opposé à l'ultralibéralisme qui s'est installé en agriculture au détriment de l'agriculture familiale et des paysans, et vous réclamez pour les paysans des prix rémunérateurs pour ne pas qu'ils soient esclaves de l'agro-industrie. Pourtant, vous dites que vous aviez pensé avant votre accident, que le modèle productiviste chimique et industriel était la seule façon d'éradiquer la faim dans le monde. Faucheur d'OGM, de la première heure, opposé à la brevetabilité du vivant, adepte de la lutte non-violente, vous faites partie du syndicat de la Confédération paysanne. Nous accueillons également en studio Frédéric Nem, maraîcher bio à Arnas, installé depuis 17 ans, dans le maraîchage bio depuis 20 ans, qui nous apportera donc son expérience de terrain en cette période qui est très difficile pour le bio, pour la filière bio, puisque les pertes économiques annuelles pour cette filière sont estimées à 260 millions d'euros, là où le gouvernement propose une aide de 50 millions d'euros. Chez vous, à Arcambio, vous procurez des paniers aux particuliers, aux entreprises, vous mettez en place aussi un marché, vous montez des animations autour de la ferme, vous pourrez nous parler de tout ça.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Frédéric. Pas de chronique de la calade verte aujourd'hui, on passe à un rythme bimestriel à partir de maintenant. Par contre, nous finirons comme d'habitude par un point d'actualité associative et climat en calade. Allez, c'est parti et on débute tout de suite sur ce thème de l'agriculture paysanne avec un petit montage toujours aussi dynamique de notre ami JC.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre...
Dans Paysan, il y a pays. Parce qu'au cœur d'un pays, ce qui permet de faire qu'on est une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent.
On est passé du paysan à l'exploitant agricole. Et l'exploitation, elle dit bien ce qu'elle dit.
Ceux qui travaillent la terre sont la variable d'ajustement d'un modèle agroéconomique où ils sont rien. En amont de ce modèle, il y a tout ce qui est l'agrochimie et l'aval, les géants de l'agroalimentaire.
La grande distribution, dont les marges ont augmenté de 80%.
La productivité de l'agriculteur, c'est le produit brut moins ce qu'il a détruit.
On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles. Puis voilà ce que ça donne, c'est qu'on a des sols qui ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors on est en cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols.
Avec la nourriture moderne, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance.
Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant.
Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide.
Pour calmer les agriculteurs, le gouvernement de Gabriel Attal a finalement reculé sur les pesticides.
Aujourd'hui, la perte de consommation est tellement forte qu'on se demande si on ne va pas repartir en arrière en agriculture biologique.
Je pense qu'une grande partie du changement peut venir du consommateur.
Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis à AgroParisTech.
Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche.
Une rupture entre l'écologie et l'agriculture, c'est une folie.
Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
C'est pas le mouvement normal d'un agriculteur de tuer sa terre. Un agriculteur, il veut plutôt que sa terre soit vivante.
Ah, bravo JC pour ce montage. Tellement de choses ont été dites en si peu de temps et beaucoup de choses d'actualité. Alors ma première question à mes invités, c'est celle-ci. Est-ce que vous voulez réagir sur ce montage et sur la séquence d'actualité que nous traversons actuellement ? Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Gérard ?
Ah ben, de toute façon, oui, on entend Bourguignon qui dit qu'on a tué les sols, qu'on a tout tué. Aujourd'hui, on en est là. Et malheureusement, avec l'actualité, le gouvernement a fait une marche arrière énorme par rapport aux produits chimiques. Déjà, l'Europe, il y a quelques semaines, avait reprolongé pour 10 ans le glyphosate. Quand on sait que les dégâts que font le glyphosate, et pas que le glyphosate, le Roundup, hein, puisque le glyphosate n'est que la molécule principale du Roundup, mais des scientifiques viennent de découvrir que dans les secrets de fabrication du Roundup, par exemple, il y a ce qu'on appelle les adjuvants et les excipients. Et les excipients font partie du secret de fabrication, et on vient de découvrir que dans les excipients, il y a 42% d'arsenic et il y a du plomb. Donc vous voyez un petit peu... les grandes Bayer qui produisent le Roundup, et maintenant ils viennent sortir un Roundup, par exemple, ils viennent sortir au vinaigre blanc. Et toute la population est persuadée que ce Roundup, hein, il n'y a plus de glyphosate, il y a du vinaigre blanc à la place du glyphosate, mais il y a toujours de l'arsenic et du plomb.
Oui, les méfaits des pesticides, on pourra en parler un petit peu plus tard. Je crois que les scientifiques se sont bien penchés sur la question. Et que quand on nous dit que ça évolue pas forcément dans le bon sens quand on vous entend. Fred, vous, les pesticides, vous en utilisez pas trop ?
Eh ben non, j'en utilise pas. Et puis, en entendant vos jingles, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poignard dans le dos, pas à cause de mon métier, en fait, parce qu'il fait mal au dos, c'est vrai, mais à cause de l'État qui nous a demandé, il y a une trentaine d'années, de faire du bio. De nous lancer dans le bio, de trouver des solutions en fait pour se passer de tous ces pesticides. Donc beaucoup d'agriculteurs ont joué le jeu en fait. On s'est lancé à fond dans l'aventure du bio. comme des précurseurs à ce métier, en fait. Et puis, on arrive aujourd'hui où il nous remet un coup de poignard, où plein de petites fermes ont trouvé des solutions pour avancer, pour travailler sans pesticides. Et aujourd'hui, l'État nous dit, non, il faut faire marche arrière.
Pour illustrer ce que vous dites, Fred, les surfaces bio aujourd'hui, c'est 10% des surfaces cultivées en France. L'objectif 2027 était 18%. On n'a jamais tenu l'objectif. Il n'était déjà pas atteint en 2022, alors qu'on visait que 15%. Et l'année dernière, en 2023, il y a eu 40% de baisse des agriculteurs qui se convertissaient.
Je comprends. Mais moi, quand j'ai commencé en 2006, en fait, on était 4%. Et ils nous demandaient de monter ce pourcentage. Donc, on a joué le jeu. Ils nous ont demandé de trouver des solutions contre le climat, en fait, qui changeait. Donc, on a trouvé des solutions. On s'est réapproprié les semences anciennes. On les a réhabituées. On a changé leurs gènes pour habituer à notre climat. Et en fait, aujourd'hui, on nous demande de détruire notre travail, de détruire, en fait, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a quelques personnes qui craquent, en fait, parce qu'au bout de 30 ans de travail, c'est un coup de poignard dans le dos, comme je le disais. Et puis, ou ils changent de technique, ou ils arrêtent complètement, en fait.
Alors, Gérard, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit tableau pour nous exposer en quoi l'agriculture traditionnelle paysanne, elle est vraiment différente de l'agriculture industrielle?
Oui, alors, faut remonter à l'origine de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, elle a 70 ans. C'est l'après-guerre. Après-guerre, faut savoir une chose... On avait les tickets de rationnement, il fallait nourrir la population, et on a demandé à l'agriculture de nourrir la population. Et on a eu le plan Marshall, la mécanisation est arrivée massivement, bon marché, puisque mon père, en 55, a acheté son premier tracteur en vendant sa paire de bœufs. C'est une image. Imagine aujourd'hui vendre une paire de bœufs pour acheter un tracteur, on aura peut-être le volant, et pas sûr. donc voilà. Et voilà. Après, loi d'orientation agricole 1962-63, c'est là où il y a eu les remembrements, l'arrachage massif de haies. Il faut savoir une chose, c'est que depuis cette date-là, en France, on a perdu 70% de la surface du linéaire des haies. 70%.
Un petit chiffre pour illustrer ce que vous dites, Gérard. Actuellement, on parle beaucoup du problème de la réglementation sur les haies, mais en fait, le problème, c'est l'absence d'application de cette réglementation, parce qu'en 2023, on a encore eu 23 500 km de haies qui ont disparu.
C'est ça, exact.
5 fois plus que ce qu'on replante.
C'est-à-dire que suite à cette crise, là, ils viennent de faire une annonce d'aujourd'hui à 2030, ils veulent planter 30 000 km. Ce qu'on sait qu'on perd 24 000 par an, c'est se foutre la gueule du monde, quoi. C'est-à-dire déjà interdire, et plutôt qu'avoir un plan de replante, déjà interdire toute haie ancienne à arracher, et avec des contrôles, parce qu'autrement, 24 000 km par an, vous imaginez, Mais on a perdu, alors je n'ai pas les chiffres par an de 1960 à l'an 2000, mais de l'an 2000 à l'an 2010, on a perdu 45 000 par an, et de l'an 2010 à l'an 2020, on a perdu 35 000 par an. Là, on n'est plus qu'à 24 000 parce qu'il n'y en a pratiquement plus, donc on ne peut plus en arracher, elles sont déjà arrachées. Donc, mais c'est un scandale. Et après, on a eu le problème d'eau. Ah oui, parce que la haie, comme par hasard, ils découvrent que la haie, elle rentre dans le cycle de l'eau. Toi, c'est ça l'agriculture industrielle. Alors moi, autant j'y ai cru, parce qu'à l'école, moi je suis de la vieille génération, j'ai fait mon cursus dans les années 60, pendant les 30 glorieuses, et que chaque fois qu'on mettait un engrais supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Chaque fois qu'on mettait un pesticide supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Ouais, c'était extraordinaire. On voyait exploser les rendements. On a gagné entre 1950 et 1995, on a gagné un quintal par an et par hectare en blé. c'est-à-dire 100 kilos par an et par hectare supplémentaire. Mmh. Depuis 1995 jusqu'en 2015, on a plafonné, on n'a pas bougé. Depuis 2015, on perd 30 kilos par an et par hectare. C'est-à-dire on baisse parce qu'on a des sols de plus en plus morts. Ah, on a des sols propres, mais on a des sols morts. Voilà l'agriculture chimique.
Est-ce que Fred, vous pouvez témoigner de ce que c'est qu'un sol vivant par rapport à ces sols morts que décrit Gérard ?
Eh bien, un sol vivant, en fait, c'est vraiment un sol où il se passe quelque chose en profondeur, où il y a de la vie, où il y a, comment on va dire, des petites bêtes, où il y a des vers de terre qui vont manger, en fait, tous les détritus et qui vont ramener de la fleur et de la vie, en fait, pour les plantes. Donc, comme disait Gérard, en fait, nous, notre métier, c'est de remettre de la vie dans le sol et après de la faire fructifier sans l'être humain, en fait. Mmh. Donc, nous, on arrive, on va prendre un sol mort, on va remettre de la biodiversité dessus, comme de l'engrais vert, comme des composts. On va réhabiliter de la vie et après, on va essayer de s'en occuper de moins en moins. Une fois que la vie est là, nous, on va essayer, en fait, juste un peu de profiter et de laisser, en fait, cette balance se faire naturellement avec la nature et la vie du sol.
D'accord.
Il faut savoir, je veux dire, des petits chiffres, alors je sais qu'à la radio, les chiffres, il ne faut pas trop en dire, mais quand même, dans un gramme de sol vivant, dans un bois, par exemple, dans un bois où il n'y a jamais eu de pesticides ni d'engrais, hein, les arbres continuent de pousser, et très bien, hein, dans un gramme de sol, vous avez 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons, dans un gramme. Dans un hectare, vous savez-vous combien dans un hectare, dans un sol vivant, dans un bois qui n'a jamais eu rien, combien il y a d'êtres vivants ? Alors je vous y demande en poids. Hein ?
Plus, quelques tonnes, j'imagine.
On a 10 tonnes d'êtres vivants par hectare. 10 tonnes, ça représente 15 vaches. Si, sur un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Hein. Si vous mettez 15 vaches, vous les voyez ? Eh bien, c'est 10 tonnes d'êtres vivants qui vivent dans les 5 premiers centimètres du... les vers de terre vont plus profond, mais grosso modo, il y a 95% qui vivent dans les 5 premiers centimètres du sol. Vous ne les voyez pas. Et moi, j'appelle ça des collègues de boulot parce qu'ils travaillent pour vous. 7/7, 24 heures sur 24.
Même quand on dort.
Et ils ne sont jamais en grève.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on les enlève, toutes ces bibibettes ?
Eh bien, avec la chimie, ils disparaissent. Et la seule parade, c'est l'engrais chimique. Parce qu'ils ont disparu. Tout ce travail qu'ils font, eh bien, ils ont complètement disparu. Et moi, quand j'ai découvert ça, mais c'est extraordinaire. Hein, c'est comme si, j'ai écrit mon livre Le berger des mésanges bleus, les mésanges bleus, c'est devenu mes collègues de boulot hein, qui travaillent pour moi. Hein, mais quand j'ai appris ça, c'est comme si j'avais appuyé sur le bouton reset de mon ordinateur et on recommence tout à zéro. Hein, voilà. Et Fred, lui, ben, quand il a démarré en agriculture biologique, eh ben, il avait conscience de ça, alors que moi, je n'avais pas appris ça, j'avais appris l'agriculture chimique industrielle. Alors, une petite parenthèse, je parle bien d'agriculture chimique industrielle, je ne parle pas d'agriculture conventionnelle, parce que le mot conventionnel, c'est un mot qui nous a été volé, puisque ce qui est fait conventionnellement depuis des millénaires, ce n'est pas cette agriculture chimique industrielle. Cette agriculture chimique industrielle n'a que 70 ans d'âge, et quand on voit tout ce qu'elle a détruit, c'est dramatique.
Alors pourtant, il y en a qui disent que sans l'agriculture moderne, on n'aurait jamais atteint l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, est-ce qu'on est vraiment autonome au niveau alimentaire ?
Est-ce que on est loin d'être autonome aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le faire. On peut le faire en réhabilitant des petites fermes, on peut le faire en se réappropriant nos terres, nos haies, en se réappropriant nos paysans et en reconsidérant en fait ce que c'est de manger pour toute la population en fait. De revenir au plaisir de manger, le plaisir des saveurs, le plaisir d'avoir des légumes et de saison. Et, parce que des légumes de saison, c'est aussi avoir des vitamines de saison. Notre corps change tout le temps, a besoin de vitamines tout le temps. Et de revenir à ces légumes de saison, en fait, on se réapproprie des vitamines. On n'a pas besoin de prendre dans des cachets ou des choses comme ça. Quand on a besoin de la vitamine D, bah, on a des fruits et légumes pour ça. Quand on a besoin des oméga 3, ben on a besoin de choux en hiver. Et on a tout sur place, en fait. Donc, on peut refaire ça à force de bras, de mains. Et donc, je pense que l'avenir, moi, est dans l'agriculture bio, la petite agriculture bio, et pas dans ces grands terrains qui sont en train de tout bouffer. Quoi.
Qu'est-ce que alors, vous en pensez ?
Moi, je suis persuadé que l'agriculture chimique n'est pas capable de nourrir l'humanité. Pourquoi ? Tout simplement, sur cette planète, et les chiffres, je les maîtrise bien, puisque je suis consultant au Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève, donc je maîtrise bien tous ces chiffres. Au niveau mondial, 8 milliards d'habitants, 1 milliard 300 millions de paysans. Sur ce 1 milliard 300 millions de paysans, il n'y en a que 2%, 28 millions, qui sont motorisés, mais détiennent 75% de la surface agricole utile. 2%, 75% de la surface agricole, mais ne nourrissent que 20% de la population mondiale. Le 1,3 milliard qui ne sont pas motorisés, il y en a 300 millions qui ont une traction animale et 1 milliard qui travaillent à la main. Ce 1,3 milliard de paysans ne détient que 20% de la surface mondiale, mais nourrissent 75% de la surface de la population mondiale. Vous voyez un petit peu, là, hein, c'est complètement inversé. Il reste 5% de surface et 5% de population, puisque si vous avez fait les comptes que j'ai donnés, c'est les jardins familiaux qui nourrissent 5% de la population mondiale. 5% de la surface, 5%. Donc, cette agriculture chimique industrielle ne nourrit déjà pas la population mondiale. Ça, c'est bien. Et elle va la nourrir de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est déjà rentré dans. On a eu une crise sanitaire, on est déjà rentré dans une crise alimentaire, puisque vous voyez l'augmentation des prix de partout. Elle s'explique parce que je vous ai dit tout à l'heure que le rendement baissait, cette agriculture chimique.
Les sols s'usent, quoi.
Voilà. Sont morts. Ils ne s'usent pas. Un sol, ça ne s'use pas. Il est mort. D'accord. Ou il est vivant. C'est pas.
C'est blanc ou noir.
Voilà. C'est avec cette agriculture qui est basée sur le N, le P et le K. N, c'est l'azote agricole. L'azote agricole, je n'ai pas eu les chiffres de 2023, mais en 2022, il a été multiplié par 3. Le prix a été multiplié par 3. Parce que pour fabriquer l'azote agricole, c'est fait avec les gaz russes et norvégiens. Et avec la guerre en Ukraine, le gaz, vous avez vu le prix du gaz à flamber, mais pour faire l'azote, eh ben on utilise ce gaz. On fait comment ? Donc déjà, les paysans qui sont enterrés jusque-là, comment ils vont pouvoir acheter cet engrais ? Ils ne peuvent plus. Ça, c'est l'azote. Le P, le phosphore. Une émission d'Arte qui date de 2005 disait « La fin du phosphore », intitulée « La fin du phosphore ». Vous pouvez aller la chercher sur Internet, on la trouve encore, cette émission. Ils annonçaient la fin du phosphore en 2005, ils l'annonçaient pour 2030 à 2040. Les réserves phosphore sont finies. Ça ira d'autant plus vite que 30% du phosphore mondial, c'est le Canada, et 70%, c'est la Russie et la Biélorussie. Pour ce qui est des potasses, le cas, les potasses d'Alsace, il y a plus de 30 ans qu'elles sont vides. Aujourd'hui, et on annonce en 2050, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, il en reste dans les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. 2050, il n'y en a plus. Cette agriculture chimique et industrielle, le jour où ils n'ont plus ces 3 éléments, ils font comment ? Et en plus de ça, ils ont des sols morts qui ne sont pas capables de, justement, nos petites bêtes, qu'on disait là tout à l'heure, nos petites bêtes qui sont justement capables d'aller chercher le phosphore et le potassium dans la roche-mère, puisque grâce aux champignons mycorhiziens, alors c'est un peu technique, les champignons.
Oui, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est très, très intéressant.
Les champignons mycorhiziens, puisque tout à l'heure je vous ai dit, on a 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons par gramme de sol. Ces champignons mycorhiziens.
Ils font le boulot. Oui.
Et ils sont capables d'aller chercher dans la roche-mère le phosphore et le potassium dont la plante elle a besoin. Et c'est du donnant-donnant. La plante, grâce à la photosynthèse, va nourrir le champignon. Et le champignon, pour remercier la plante, va aller chercher le phosphore et le potassium qui est dans la roche-mère. Parce que la plante n'est pas capable d'y aller tout seul. voyez un petit peu.
Merci Gérard, c'est, ça fait rêver, c'est génial. On va bientôt faire une petite pause. On a beaucoup parlé dans cette première partie des méfaits actuels de l'agriculture industrielle, de ses limites pour nous garantir une nourriture saine pour tous à l'avenir, et puis de son déclin annoncé. On verra après la pause musicale si l'agriculture paysanne, elle, pourrait constituer une alternative crédible et à quelles conditions surtout.
Everybody dance, everybody dance, everybody dance.
Ah voilà, une chanson qui nous réveille. Merci aux programmateurs musicaux. Alors on repart sur notre sujet, avec cette fois, on va essayer d'avoir une vision sur la possibilité pour l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, telle que Gérard la définissait tout à l'heure, de nourrir la planète. D'abord, est-ce qu'on peut clarifier les choses ? Agriculture paysanne, agriculture conventionnelle, agriculture bio, alors agriculture bio dans les petites fermes, agriculture bio intensive, tout ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qui finalement, pour arriver à faire quelque chose de sain, de respectueux pour la planète, il faut promouvoir ?
Alors, on peut parler aussi d'agriculture agroécologique. Voilà, les mots, certaines personnes emploient agriculture paysanne, d'autres agroécologique, d'autres agriculture bio, etc. Moi, pour moi, sincèrement, l'agriculture paysanne, hein, c'est une agriculture faite par des paysans. Moi, j'ai été exploitant agricole. J'ai démarré ma carrière en tant qu'exploitant agricole. Et je suis devenu un paysan. Exploitant agricole, ça veut dire quoi ? Derrière le mot exploitant agricole ou exploitation agricole, c'est j'exploite la terre. On est loin de la Pachamama, de la terre-mère. J'exploite les salariés qui travaillent chez moi, il n'y a pas de raison, mais je me fais exploiter par toutes les transnationales qui me vendent leurs produits de mort. Alors qu'un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays, mais qui connaît toutes la biodiversité de sa ferme. Pourquoi le mot « ferme » a disparu du langage français au détriment d'exploitation agricole ? Ce n'est pas un hasard, c'est une volonté politique. Encore cette loi de 1963, où, à la mutualité sociale agricole, on est tous devenus, avant on était des maraîchers, des arboriculteurs, des vignerons, des éleveurs, des mots, il y en a énormément pour désigner les paysans, hein. Et d'un seul coup, on est tous devenus des exploitants agricoles. Parce que la mutuelle... Et quand vous remplissez un papier officiel où on vous demande votre métier, il n'y a qu'une ligne, exploitant agricole. Hein? Donc, vous voyez, c'est bien une volonté politique. Hein? Et déjà, moi je dis, les mots sont nos mots. Alors... Agriculture paysanne, c'est fait par des paysans. C'est une ferme qui est transmissible le jour où tu arrêtes. Une agriculture chimique industrielle. Aujourd'hui, les capitaux sont tellement énormes, hein, que le jeune, si un jeune qui n'est pas fils de paysan, son père s'est levé avant lui, c'est-à-dire a apporté tout ce capital, le jeune qui est issu de ce paysan peut continuer. Mais les autres ne peuvent pas. Et aujourd'hui, on voit des accaparements de terres par des grands groupes pour installer du salariat pour faire cette agriculture chimique industrielle. Hein? Et toi, c'est vraiment là on a vraiment une ligne de rupture. C'est-à-dire que moi je dis il faut remettre du travail, des ordres de travail au sol et à la nourriture, hein, au détriment de cette agriculture industrialisée. On peut être industrialisé en bio. Moi, régulièrement, avant la Covid, j'allais tous les ans au salon Tech et Bio, technologie et biologique. Et chaque année, je voyais grossir la puissance des tracteurs, même en agriculture biologique. J'ai même vu, la dernière année que j'y suis allé, des robots qui étaient capables de reconnaître une salade d'une mauvaise herbe et qui sarclaient à la place de l'homme. Ce robot marchait tout seul, comme ton robot aspirateur chez toi. Il marchait tout seul, il ne détruisait pas les salades, hein, mais il marchait à l'électricité. Et quand on sait qu'en France, l'électricité est à 70% nucléaire, moi j'ai envie de dire c'est du bio-nucléaire, donc à un moment donné, redonnons du travail aux paysans. Hein, et ça, c'est, pour moi, c'est le fondement.
Alors Fred, j'aimerais bien vous entendre réagir là-dessus, parce que vous y êtes tous les jours sur le terrain. Ouais, mais... Et du coup, vous me disiez tout à l'heure en aparté que c'était difficile de faire venir les gens pour travailler. Pourquoi ? Ouais, mais
en fait, moi, j'irais même plus loin que Gérard. Je dirais que le paysan fait partie intégrante de la nature, tel que le chevreuil, le ver de terre ou le compost, en fait. On est là pour vraiment... apporter une connaissance, mais on fait partie intégrante de la nature. Donc on est en symbiose avec tout ce monde, en fait. Et c'est ce mot paysan qui est parti, en fait, qui a disparu. En fait, aujourd'hui, l'agriculteur n'est plus en symbiose avec la nature. Il est devenu l'exploitant de la nature. Et nous, on revient à être en symbiose avec la nature. Donc, aujourd'hui, moi, je suis vraiment en symbiose avec cette nature. Je suis un petit paysan et je travaille un petit peu comme les gens qui travaillaient dans les années 1800, 1900, où il y avait des maraîchers à Paris qui faisaient du bio intensif, mais en manuel, et où ils faisaient sur une planche de légumes, ils arrivaient à produire six fois des légumes dans l'année, parce qu'il y avait tout le village qui venait, qui les aidait, qui mettait les petites mains là. Ils faisaient ça sur 2 ans, et après, ils laissaient reposer leur terre pendant 1 an. Donc, il y avait, en fait, des friches sur 35% de leur... de la capacité, en fait...
Mais cette main-d'œuvre, on ne l'a plus maintenant. Pourquoi on
ne
l'a plus ?
Cette main-d'œuvre, on ne l'a plus, parce que les gens trouvent à manger de partout. Aujourd'hui, il faudrait que la population se réapproprie, de travailler avec les paysans, d'avoir déjà un petit potager chez eux, de se réapproprier, en fait, le peu de terre qu'ils ont sous la main, de refaire leur nourriture. Ça, c'est hyper important, en partenariat avec les maraîchers, avec les paysans du coin, où on pourrait faire des échanges de semences anciennes, parce que nous, on travaille avec des semences anciennes, pas d'hybrides, en fait. Moi, je travaille très peu avec des hybrides, même presque jamais, en fait. Donc, on se réapproprie ces semences anciennes, on se réapproprie, en fait, les gens qui sont autour de nous, et puis on essaie de travailler tous ensemble.
Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça, c'est réaliste pour les milieux urbains, les grandes agglomérations, etc. Là, on est ici dans le Beaujolais, pourquoi pas ? Tout le monde a peut-être un petit lopin de terre, ou certaines personnes ont un petit lopin de terre pour faire du jardin. Mais à l'échelle de la nation, est-ce que c'est envisageable ? Et puis, il y a l'autre question qui vient régulièrement en disant, mais ça sera jamais à portée de bourse de tout le monde, le bio, qu'est-ce que vous en pensez ?
Donc, en fait, le bio est à portée de tout le monde. Et est-ce que c'est réalisable ? Moi, je pense que oui. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que s'ils veulent bien manger et être en bonne santé, il va falloir qu'ils reviennent mettre les mains dans la terre, en fait.
Et déjà, encourager à le faire aujourd'hui ? Quelle politique peut les encourager à le faire ?
Mais en fait, ce n'est pas une politique. C'est une façon de vivre et de bien vivre. On est des Français. On aime être ensemble, autour d'une table. On aime boire un coup. On aime manger. C'est un peu notre bonheur, notre petit bonheur. Bien sûr, maintenant, tu peux partir à l'étranger, tu peux avoir des grosses piscines et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à des choses simples de la vie que manger, boire un coup, travailler ensemble, parce que c'était un bonheur simple de travailler ensemble. Nous, on a commencé... Moi, j'ai mon oncle qui est paysan depuis toujours. Et nous, après l'école, à l'âge de 15 ans, on allait porter les bottes de paille, de foin, après l'école. Et puis à 10h, on buvait l'apéro et il nous faisait un bon steak. Et puis voilà, c'était notre journée. Là. Voilà, la journée était finie et puis on rentrait chez nous avec le sourire. Pas besoin d'avoir une piscine, une PlayStation ou des choses comme ça.
Donc. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Récemment, là, cette semaine, on m'avait demandé de faire une conférence à Grenoble et c'était les jardins en ville, c'est-à-dire les toits en jardinerie et tout ça, c'était cette association qui m'invitait. Donc oui, en ville, on peut faire de l'agriculture. On peut faire de l'agriculture. Ça, c'est prouvé. À Grenoble, ils le font. Hein. Alors, ça nourrira pas l'ensemble de la ville de Grenoble. Il faut savoir une chose. Je connais bien le département de l'Ain, puisque c'est mon département. Et à la sortie de la guerre, dans le bassin de Bourg-en-Bresse, tout autour de Bourg-en-Bresse, on avait 50 maraîchers qui vendaient leurs légumes au bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Hein ? Aujourd'hui, il reste 3. Il reste 3 maraîchers. Hein ? Donc là aussi, et bien sûr, mais les camions qui arrivent d'Espagne et de l'étranger, hein, pour une raison ou pour une autre, la vallée du Rhône était bloquée pendant quelques jours, voire un mois. Imaginons qu'une centrale nucléaire dans la vallée du Rhône pète, la vallée du Rhône bloquée. L'Europe du Nord n'a plus pour se nourrir. Ils ont 3 jours de réserve. Hein. Donc, à un moment donné, la souveraineté alimentaire, quand je vois que le ministre de l'Agriculture, cette semaine, n'a pas été capable de définir la souveraineté alimentaire, c'est quand même aberrant, insupportable, hein, qu'un ministre de l'Agriculture ne sache pas définir la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, c'est... Moi, ma vocation de paysan français, c'est d'abord de nourrir la population française, locale, locale le plus possible. Ma vocation, c'est pas de nourrir des Sénégalais, parce que les paysans sénégalais savent nourrir leur population. Mais comme nous, avec nos subventions à la con, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais des subventions qui sont données à la production, on va avoir des poulets qui sont subventionnés, donc qui vont être exportés au Sénégal. Et puis nos pauvres paysans sénégalais, ben, leur prix de revient du poulet est bien plus cher. Hein. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait eu toute une campagne faite par Terre Solidaire sur comment l'Europe plume l'Afrique. Ben, voilà, on fait partie. Souveraineté alimentaire, c'est d'abord nos populations locales. Et il faut arrêter de faire des agrocarburants. Quand tout à l'heure, je vous disais que la surface agricole, 75% de la surface agricole était en agriculture chimique industrielle, mais nourrissait que 20% de la population mondiale. Qu'est-ce que fait toute cette quantité de marchandises produites par la nourriture industrielle? Eh bien, ils font quoi? Des agrocarburants, hein, pour remplir nos 4x4 au lieu de nourrir la population. Hein, quand vous savez, on parle d'accaparement des terres. Alors on parle beaucoup des Chinois qui accaparent les terres. C'est vrai un peu. Mais on ne parle pas des Français qui accaparent des terres dans des pays du Sud. Notre ami Bolloré, tout le monde connaît, hein, vient d'acheter 400 000 hectares au Cameroun. Le Cameroun, c'est le château d'eau de l'Afrique. Tous les grands fleuves d'Afrique démarrent au Cameroun. Plus de 2 mètres d'eau par an qui tombent. Hein? Pour faire quoi? Pour faire de la canne à sucre, pour faire des agrocarburants. Mmh. Et là, maintenant, les paysans camerounais sont des paysans sans terre. C'est pas un scandale. Et c'est bien quelqu'un de chez nous qui fait ça. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Hein, stop ou encore? Ben, moi, j'ai envie de dire stop.
Je crois qu'on a tous envie de dire stop. Et alors, Fred, comment on fait pour passer de 3 à 50 maraîchers dans le Beaujolais autour de Villefranche? Qu'est-ce qui vous manque pour que ça se développe?
Déjà, je dirais que tout le développement a pris nos meilleurs terrains. Quand on voit que les grandes surfaces ont pris les terrains des anciens maraîchers, ici, il y avait aussi une quarantaine de maraîchers avant. On doit être plus que 6, dont 3 en bio dans le coin. Et des petites surfaces. Donc, déjà, arrêter de construire à outrance, se réapproprier nos terres. Donc là, on appelle en fait aux maires, c'est à eux de se réapproprier nos terres. C'est vraiment une force politique qu'ils pourraient avoir de dire, bah, là, on met tout en berne, en fait, tout ce qui est prévu depuis 10 ans, 20 ans, les parkings, les nouveaux bâtiments, on met tout en berne, on arrête et on se met autour d'une table et on réfléchit à se réapproprier vraiment les bons terrains, parce qu'ils nous ont pris tous les bons terrains. Nous, maintenant, on a des terrains. Moi, j'ai un maraîchage où on pourrait faire du maïs dessus. J'ai pas une terre à maraîchage, quoi. J'ai une terre de grande culture. Bon, on peut s'adapter, hein. Mais tout ce qu'on avait avant, où il y avait tous les limons, en fait, bah, ça a disparu. Ils ont mis du béton dessus. Donc, déjà, débétoniser le truc, quoi.
Et on n'a pas la SAFER, etc.
Moi, c'est pas des gens à qui je parle, la SAFER.
Pourquoi?
Ils
sont censés protéger les sols, non?
Oui, on peut peut-être les appeler, si on peut les appeler. Moi, je suis sur une liste depuis 4 ans avec eux, parce que je cherche un hectare dans le Beaujolais vert pour faire des petits fruits. Et ils m'ont dit oui, bon, on vous rappellera. Ça fait 4 ans que je suis sur une liste. Et en fait, ils ne m'appellent pas. Et dès que je les appelle, ils m'ont dit non, mais on n'a rien pour vous. Donc en fait, je ne sais pas à quoi ils servent s'ils ne sont pas là pour récupérer les terrains et donner aux paysans. Je pense qu'ils sont là à récupérer les terrains quand un petit paysan arrête ou meurt. Et ils les donnent aux gros, en fait, pour que les gros aient un peu plus de subventions. Donc Voilà, je pense qu'il faudra leur demander pourquoi on ne peut plus trouver de terrain. C'est quand même les seules personnes qui pourraient répondre mieux que moi.
Et là, il vient de parler de subventions. J'ai envie de rebondir sur les subventions, si ouais. ça ne vous gêne pas. La subvention, la PAC, la politique agricole commune, c'est vraiment le mot des mots. Hein, parce que derrière la PAC, c'est pas plafonné. Les aides ne sont pas plafonnées. C'est-à-dire, plus tu as d'hectares, plus tu touches.
C'est à l'hectare.
Et les paysans, ils sont devenus des chasseurs de primes. Enfin, les exploitants agricoles sont devenus des chasseurs de primes. Aujourd'hui, on donne, grosso modo, c'est 350 euros l'hectare. Le gars qui a 2 hectares, en maraîcher, qui a 2 hectares, il peut vivre avec 2 hectares. Ça lui fait 700 euros. Il ne fait même pas la déclaration, parce qu'il faut... Elle est tellement compliquée à faire qu'on est obligé de prendre un comptable. Et le comptable vous prend déjà 500 euros pour faire la déclaration. Donc, le gars qui a 2 hectares, il ne demande rien. Le gars qui a 10 hectares, ça vaut le coup de faire la déclaration parce que ça fait 3 500 euros par an. Bon, ça ne va pas faire... le miracle, mais bon, c'est quand même 3 500 euros. Le gars qui a 100 hectares, c'est 35 000 euros. Mais le gars qui a 1000 hectares, c'est 350 000 euros. Ce n'est pas plafonné. Et notre président de la FNSEA, qui a 700 hectares, c'est 240 000 euros qui touche rien que pour ses terres. À un moment donné, stop ou encore ? Est-ce que la PAC va continuer dans ce sens-là ? Hein ? La PAC ne peut pas continuer dans ce sens. La moyenne... On est passé en 1950, c'était 10 hectares, la surface moyenne en France. Aujourd'hui, on est à 69 hectares. Eh bien, partons sur cette base de 69 hectares. 69 hectares, ça fait 21 000 euros par individu. Eh bien, on y donne à l'individu et on donne à tout le monde 21 000 euros hein, et non pas 350 000 pour le gars qui a 1000 hectares. Il aurait 21 000, pas plus. Et pour le petit paysan qui a 2 hectares, passer à 21 000, qui n'a rien aujourd'hui, il peut faire du bio et faire de la bonne qualité parce que... Hein, et en plus de ça, la course à l'agrandissement n'a plus lieu d'être, puisque... et ça permet d'installer des jeunes. Ça permet, sur ces terrains-là, de réinstaller des jeunes, de faire de l'agriculture. Plus tu installeras, plus tu feras de la qualité. Moins on sera nombreux, plus ça sera de la cavalerie et ça sera de la chimie. C'est mathématique. Donc, à un moment donné, stop ou encore, de cette politique agricole. Et ce n'est pas dans les annonces qu'a fait Attal là, ces derniers jours qu'on a entendu ça.
Alors, à travers les subventions, on a parlé revenus. Qu'est-ce que, Fred, vous en pensez du problème des revenus aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment difficile, comme on l'entend ? Est-ce que c'est une revendication des agriculteurs, le problème des revenus ?
Ah bah oui, c'est le cœur même de l'agriculture, en fait, et de l'agriculteur. Aujourd'hui, moi, j'ai rien à cacher. Hein, je touche 1400 balles par mois, avec beaucoup d'heures, mais je touche moins qu'il y a 15 ans. Il a fallu baisser nos prix, et les prix de production, en fait, ont augmenté. Donc, l'un dans l'autre, c'est assez facile, en fait, c'est nos revenus qui partent.
Ok, ben merci beaucoup. Alors, on aurait eu beaucoup d'autres choses à dire. Je pense qu'on pourrait faire d'autres émissions sur le sujet, mais il faut conclure. Et en conclusion, et parce qu'à Alternativa, nous avons une position claire sur ce thème, je voudrais ajouter deux choses pour nos auditeurs. D'abord, les inviter à la plus grande vigilance sur les informations. Par exemple, notre gouvernement, dont a parlé plusieurs fois Gérard, n'hésite pas à prendre des décisions publiques qui sont basées sur des mensonges, tout simplement. Non, le gouvernement ne se bat pas pour notre indépendance agricole et notre souveraineté. En réalité, le modèle agro-industriel actuel est extrêmement dépendant des importations, énergie fossile, intrants de synthèse, etc. Non, les agriculteurs ne passent pas leur temps à se battre contre des recours abusifs. C'est faux, il n'y a aucune procédure abusive qui existe en matière de contentieux environnemental. Et je pourrais en faire toute une liste comme ça. La FNE, la Fédération Nationale de l'Environnement, a fait un papier là-dessus. Donc regardez bien ces fake news sur lesquelles finalement le gouvernement se base pour justifier la poursuite d'un modèle qui met en danger notre santé et l'environnement. Chez Alternatiba, on est donc clairement pour un changement de modèle d'agricole, parce que avec le climat, il n'y a pas le choix. Or, pour changer de modèle, il faut donner de bonnes incitations aux fermiers, avant tout par les prix. Le gouvernement a choisi de soutenir des solutions qui ne sont pas soutenables à long terme. C'est difficile, mais il faut du courage. Il faut faire des choix politiques, des choix de cap. Quand un secteur est subventionné, comme l'a été l'agro-industrie pendant des années, lui enlever ses privilèges, c'est difficile, même quand ceux-là n'ont plus de sens. Cela peut se faire uniquement si les agriculteurs sont compensés et ont confiance sur le fait qu'ils vont effectivement avoir des compensations pour se renouveler. Sinon, le statu quo est trop précieux pour être abandonné. Notre agriculture, finalement, est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a été accompagnée pendant des années dans ce sens, comme l'expliquait Gérard tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut se poser la question, quelle agriculture on veut pour répondre aux nouveaux enjeux? Est-ce qu'on veut poursuivre en allant dans le mur? A-t-on une ambition politique pour réorienter l'agriculture en France? Et nous, chez Alternatiba, nous serons toujours aux côtés de ceux qui se battent pour ce changement de modèle.
Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche, au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. En pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. Pas trier les lentilles, à côté du puits envolé, avec le cou déjà levé. Y aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
Alors, encore un grand merci à nos deux invités pour cet échange très vivant. Si seulement toutes nos terres pouvaient devenir aussi vivantes, ce serait parfait. Alors, on termine cette émission avec quelques rendez-vous en calade. Du cinéma, surtout. Au cinéma Les 400 coups, La ferme des Bertrands de Gilles Perret, qui retrace la vie d'une famille de paysans depuis trois générations. Ça passe du 21 au 27 février. Et puis, au singulier à Belleville, sera projeté le film Secret toxique. Donc, vous dites bien, ça parle notamment de pesticides. Donc, en collaboration avec Alternatiba et Gérard Boinon, qui viendra clore la séance, c'est le 29 mars au singulier à Belleville. Merci à toute l'équipe de Radio Alternativa. J'ai eu le plaisir de préparer ce sujet avec l'appui d'Anne-Sophie et de Jean-Christophe à la musique. Gaël et Pierre étaient en studio à la technique. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission au cours de laquelle on viendra parler de mobilisation citoyenne. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Calade et nous laisser des messages sur les réseaux. Très bonne semaine à toutes et à tous.
Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade.
Ma radio.